Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, la cité des enfants consultés. La mort de Beethoven à la lumière de son ADN. Et le World Wide Web. Bonne écoute.
La cité des enfants consultés. Un texte de Jocelyn Guillarmou et Mallory Flon, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. Jocelyn Guillarmou est chargée de projet, publications et contenus à l'Institut du Nouveau Monde, INM, et co-directeur de l'État du Québec, Somme toute, Le Devoir, et Mallory Flon est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, INM. Dans « La cité des enfants perdus », film à l'ambiance punk vaporeuse sorti en 1995, Crank, un anti-héros issu d'expériences génétiques, est incapable de rêver. Afin de ne pas vieillir prématurément, ce dernier met au point un savant et terrible dispositif pour accaparer les rêves des enfants de la ville. Et si nous étions, nous aussi, devenus incapables de rêver et devions nous en remettre à celles et ceux qui le peuvent encore, nos enfants et nos jeunes? L'analogie, un peu sombre, mais tout de même poétique, n'oublions pas qu'il s'agit d'un conte, avec le film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, nous rappelle toutefois ô combien il est essentiel de s'inspirer des visions, des espoirs, des craintes et des solutions d'une génération qui devra vivre avec les choix que nous faisons aujourd'hui. L'actualité ne manque pas de nous rappeler quotidiennement que les enfants et les jeunes sont des acteurs incontournables des grands défis de notre cité. Sécurité publique, aménagement du territoire, vivre ensemble, santé mentale, etc. Ils sont au cœur des questions qu'on se pose et des solutions qu'on cherche collectivement. Une enfant de 7 ans est happée à mort par un véhicule aux abords de son école en décembre 2022 à Montréal. Des parents se mobilisent dans la foulée pour la sécurisation des zones scolaires. En octobre 2022, un jeune de 15 ans est rabroué lors d'un conseil d'arrondissement à Anjou pour avoir posé une question concernant l'interdiction de pratiquer le soccer libre dans le quartier. Quelques mois plus tôt, pour répondre aux violences commises et subies chez les jeunes, un forum était organisé par la Ville de Montréal. Un peu moins de 2 ans après la publication du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à laquelle l'Institut du Nouveau Monde, INM, a contribué en animant 42 forums de consultation sur le territoire de la province, le contexte n'a jamais été aussi pressant de s'en remettre au vécu et aux expériences de nos jeunes pour mieux adapter nos politiques, nos services et nos villes à leur réalité. Au Québec, 18,5% de la population a moins de 18 ans. Si cette part importante de la population ne vote pas encore, elle peut faire vivre la démocratie à son échelle et par d'autres moyens. Il n'en tient qu'à nous de l'écouter, de lui offrir des espaces pour s'exprimer et de l'associer à nos mécanismes consultatifs, délibératifs et décisionnels pour permettre aux jeunes de devenir de véritables citoyens de la cité. Leur participation est d'ailleurs protégée par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies qui leur reconnaît le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, ainsi que les droits à la liberté d'expression, à la liberté de pensée et de conscience, à la liberté d'association ou encore à la liberté de réunion pacifique. Malgré un vent favorable au développement d'une culture de participation publique au Québec depuis quelques années, les initiatives pour associer des enfants et des jeunes à la prise de décisions collectives sont encore rares. Pourtant, il existe des exemples inspirants. Des conseils municipaux jeunesse voient le jour à Drummondville, Trois-Rivières, Montréal, Québec, Sainte-Julie, Laval ou encore Blainville. Des événements rassembleurs, comme les écoles de citoyenneté de l'INM, les consultations « Raconte-moi ta ville », organisées à l'été 2022 auprès d'enfants de 4 à 12 ans, dans le cadre de l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal, et la démarche « Rêver pour créer », pilotée par l'INM en 2020, et soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon, mérite toute notre attention en termes de méthode et d'apprentissage. Les bénéfices de ces dispositifs sont immenses, car en plus de permettre le développement de services adaptés à leurs besoins, ils sont vecteurs de confiance, d'appropriation et de responsabilisation envers la société tout entière. En outre, ils contribuent à éduquer nos enfants et nos jeunes à la citoyenneté et permettent de rejoindre et de mobiliser leurs parents, leurs professeurs et leur communauté. Il va sans dire que ces démarches s'accompagne aussi d'un bon nombre de défis. On ne consulte pas des enfants et des jeunes comme on consulte le reste de la population. Pour consulter les enfants, il faut des approches distinctes selon les âges, les genres et les contextes. Par exemple, on ne rejoint pas les jeunes plus privilégiés de la même façon que ceux qui vivent diverses formes d'exclusion. La mobilisation et la communication adéquate, comme toujours en participation publique, s'avèrent des clés. Mais elles peuvent se heurter à des cultures organisationnelles qui n'ont pas la flexibilité requise. À l'INM, nous mobilisons depuis 2004 des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens de tous âges, dont des jeunes provenant des quatre coins de la province, pour réfléchir, débattre et proposer des façons de rêver le Québec et le monde dans lequel nous souhaitons vivre. La preuve est faite que la jeunesse souhaite s'engager à bâtir une société inclusive et à protéger l'environnement pour évoluer dans un monde juste, durable et à son image. Prenons conscience que les rêves de nos enfants et de nos jeunes ne sont pas perdus et que nous avons tout en main pour bâtir une véritable cité des enfants consultés. C'était « La cité des enfants consultés », un texte de Jocelyn Guillarmou et Mallory Flon, paru le 18 mars 2023 dans La Presse.
La mort de Beethoven à la lumière de son ADN. Un texte de Lucie Aubourg, paru le 22 mars 2023 dans la presse. Il y a quasiment deux siècles, le 26 mars 1827, l'un des plus influents compositeurs de musique classique, Ludwig van Beethoven, décède à Vienne à l'âge de 56 ans. Mais depuis, les débats autour des raisons exactes de sa mort n'ont jamais cessé entre les spécialistes. Des chercheurs ont aujourd'hui utilisé une technique inédite pour apporter un nouvel éclairage sur la disparition prématurée du compositeur allemand. En analysant son ADN à partir de mèches de ses cheveux. Leur étude, publiée dans la revue scientifique Current Biology, a révélé de fortes prédispositions génétiques aux maladies du foie, ainsi qu'une infection au virus de l'hépatite B à la fin de sa vie, deux facteurs ayant vraisemblablement contribué à sa mort, très certainement d'une cirrhose aggravée par la consommation d'alcool. Mais ils n'ont malheureusement pas pu expliquer la cause de sa surdité progressive qui causait tant de peine à l'auteur de la 9e symphonie. En 1802, le compositeur avait fait part de sa volonté dans une lettre à ses frères rédigée dans un moment de désespoir que sa maladie soit décrite après sa mort et rendue publique. « Nous avons cherché à répondre à ce souhait », a déclaré lors d'une conférence de presse Tristan Begg, chercheur à l'Université de Cambridge et auteur principal de l'étude. Et même si le mystère perdure encore autour de certaines des nombreuses pathologies dont souffrait Beethoven, nous avons été extrêmement chanceux, ellipse, d'obtenir des résultats si fascinants, a déclaré M. Begg, à l'origine de ce projet démarré en 2014. 5 mèches. Jusqu'ici, les recherches sur la santé de Beethoven émanaient surtout de ses correspondances, son journal, des notes de ses médecins ou encore d'un rapport d'autopsie. Cette fois, les scientifiques se sont penchés sur 8 mèches de cheveux présentées comme appartenant à Beethoven et issues de collections publiques ou privées. Ils ont déterminé que 5 d'entre elles provenaient d'un même individu masculin, avec des altérations montrant qu'elles dataient bien du début du 19e siècle. Parmi ces 5 mèches, l'histoire de transmission depuis 2 siècles est ininterrompue pour 2 d'entre elles et soutenue par une riche documentation. L'une a été offerte en 1826 par Beethoven lui-même à un ami musicien et la seconde provient d'un ami de la famille ayant organisé ses funérailles jusqu'à être vendue aux enchères en 2016. Ces 5 mèches, qui couvrent les 7 dernières années de vie de Beethoven, sont de façon quasi certaine authentiques, selon les chercheurs. 3 autres ont en revanche été disqualifiées, dont une qui avait été utilisée pour soutenir l'hypothèse d'une mort par intoxication au plomb, mais appartenant en fait à une femme. Le séquençage de l'ADN a ensuite eu lieu en Allemagne, dans le laboratoire de l'Institut Max Planck d'anthropologie à Leipzig, où sont habituellement plutôt étudiés des hommes préhistoriques. Contrairement à l'analyse d'os dans les cheveux, l'ADN est très dégradé, a expliqué Johannes Kraus, responsable du département de génétique de cet institut et co-auteur de l'étude. Il était difficile de récolter assez d'ADN pour rassembler le génome. Plusieurs mètres de cheveux ont été utilisés et finalement, les 3/4 du génome, à savoir l'ensemble des gènes d'un être vivant, ont pu être cartographiés. Écart conjugal. Beethoven, qui a connu au moins 2 épisodes de jaunisse, dont le premier en 1821, présentait une prédisposition génétique considérable aux maladies du foie, conclut l'étude. Elle révèle également que Beethoven présentait une infection au virus de l'hépatite B, au moins durant les derniers mois de sa vie, mais qui pourrait avoir été antérieure. Or, une infection chronique est l'une des causes majeures de cirrhose. On sait par ailleurs que Beethoven était un grand consommateur d'alcool. Nous pensons donc que sa maladie provient d'une interaction entre ces trois facteurs, a expliqué Marcus Noten, également co-auteur de l'étude. Les chercheurs n'ont en revanche pas pu émettre de conclusion définitive pour les problèmes intestinaux du compositeur, mais l'intolérance au lactose est exclue. Ni surtout pour sa surdité, qui aurait pu être causée par une autosclérose ou bien la maladie de Paget. Pour conclure leurs travaux, les scientifiques ont comparé l'ADN de Beethoven avec celle de cinq hommes belges partageant avec le compositeur un lointain parent ayant vécu au XVIe siècle, Hert van Beethoven. Surprise! Le chromosome Y de ces cinq hommes ne correspond pas à celui du musicien. Selon les chercheurs, la seule explication possible est une relation extra-conjugale, quelque part entre les sept générations séparant cet ancêtre commun et la naissance de Beethoven à Bonn en 1770. Vous ne pouvez pas exclure que Beethoven lui-même soit illégitime, a jugé Tristan Begg. C'est une possibilité. C'était « La mort de Beethoven à la lumière de son ADN », un texte de Lucie Aubourg paru le 22 mars 2023 dans la presse.
www.le World Wide Web. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. Un jour, le brillant et très écolo horticulteur Denis Le Breton m'a guidé vers la lecture du bouquin « Le monde caché » de Merlin Sheldrick. Une grosse brique portant sur l'extraordinaire place occupée par les champignons et les lichens dans la biosphère. C'est cette lecture majeure qui m'a donné le goût de chroniquer aujourd'hui sur le World Wide Web que certains scientifiques trouvent tiré par les cheveux. Le concept a été popularisé en 1997 par le mycologue britannique David Reed. Mais il doit largement aux travaux de l'écologiste canadienne Suzanne Simard. De quoi s'agit-il? Par analogie à notre Internet, le web forestier est représenté par le réseau souterrain de filaments mycéliens qui relie les plantes. Si la force de notre Internet se mesure en mégabits, celle de la toile mycélienne s'exprime en masse de carbone voyageant dans les ifs de champignons qui peuvent s'étendre sur de très longues distances. Ainsi, en 1998, on a trouvé, en Oregon, un champignon dont les filaments s'étendent sur 880 hectares de forêt. Plus que de simples individualités, les arbres, partageant cette toile, forment une véritable communauté. Est-ce qu'il y a une parenté biomimétique entre les réseaux humains et fongiques? Non. La part des champignons dans la naissance de notre Internet est peut-être ailleurs, dit Michael Pollan. Dans « Voyage aux confins de l'esprit », Pollan évoque un probable lien de causalité entre la découverte de la psilocybine et du LSD. Par la contre-culture des années 1960 et la genèse du réseau informatique Internet. La relation n'est peut-être pas directe, dit-il, mais on peut certainement trouver un lien entre l'arrivée des drogues psychédéliques d'origine fongique et le boom technologique qui se produira 20 années plus tard dans la Silicon Valley. Je le cite. Dans quelle mesure le concept de cyberespace, ce lieu immatériel où l'on peut construire une nouvelle identité et rejoindre une communauté d'autres sujets virtuels, doit-il à une imagination sous l'acide? Et la réalité virtuelle? La notion même de cybernétique, c'est-à-dire l'idée que la réalité matérielle puisse être traduite en bits d'information, doit peut-être, elle aussi, quelque chose à l'expérience LSD et à la capacité de cette substance de transformer la matière en esprit. Cela dit, la Terre étant une planète végétale qui repose sur des fondations fongiques et bactériennes, le web forestier est bien plus essentiel à la biosphère que celui qui a accouché de nos réseaux sociaux. La très grande majorité des plantes ont des partenaires mycéliens dans le sol qui leur fournissent des ingrédients et de l'eau. Pour honorer cette association à intérêts réciproques, les végétaux doivent partager les sucres qu'ils fabriquent avec eux. Certaines plantes retournent ainsi jusqu'à un tiers des produits de leur photosynthèse à ces travailleurs dans l'ombre. Les spécialistes ont aussi découvert que les champignons symbiotiques améliorent la résistance des végétaux au stress et aux attaques parasitaires. Plus que de simples câbles de transmission d'informations, dit Sheldrake, ils peuvent même favoriser leurs fidèles partenaires et couper les vivres aux moins généreux à leur égard. Ce monde extraordinaire vous intéresse? Je vous recommande de lire « Les mycorhizes, l'essor de la nouvelle révolution verte ». Ce bouquin publié par Jean-André Fortin, Christian Planchette et Yves Piché a changé profondément mon regard sur la vie végétale et la place du réseau fongique dans le vivant. À la fin des années 1990, la sommité canadienne de l'écologie forestière, Suzanne Simard, a découvert, en milieu naturel, des partages de nourriture entre des bouleaux et des sapins via ce réseau fongique. En donnant du carbone marqué à des bouleaux, Simard a constaté un peu plus tard qu'ils en avaient refilé à des sapins. Le bouleau à papier et le sapin de Douglas, deux espèces bien différentes, partageaient des ressources nourricières via le web fongique. Plus touchant encore, la scientifique découvrira que ce sont de jeunes sapins désavantagés par leur localisation en zone ombragée qui avaient bénéficié de la largesse des bouleaux. Au printemps, quand les bouleaux dénudés étaient incapables de faire la photosynthèse, ils recevaient des ressources provenant des sapins. Au milieu de l'été, lorsque surplombés par le feuillage des grands arbres, les jeunes sapins peinaient à trouver le soleil, ce sont les bouleaux qui renvoyaient l'ascenseur. Le flux de partage était donc bidirectionnel. Grâce au Wood Wide Web, dans une forêt, dit Sheldrake, des surplus peuvent passer ainsi des zones d'abondance vers les zones de pénurie. L'auteur rapporte aussi des histoires qui auraient fait pleurer ma défunte maman, pour qui le partage et l'entraide étaient au centre de sa vie. On a déjà observé, dit-il, des transferts de ressources de plantes mourantes vers des plantes saines voisines. une sorte d'exécution testamentaire pré-mortem. Que dire aussi des plantes en santé qui viennent en aide à une souche qui a encore des chances de renaître? Les arbres qui sortent de leur dormance en ce printemps qui commence sont peut-être les modèles à copier pour une coexistence durable avec la biosphère. Si le capitalisme célèbre la seule compétitivité, les plantes à fleurs sont un peu plus portées sur l'économie de partage. Plus que nous donner des sucres en empruntant le réseau de tuyaux qui parcourent les érablières en ce temps des sucres, elles ont des choses à nous apprendre pour améliorer notre rapport problématique avec la biosphère. C'était www.lewoodwideweb, un texte de Boucard Diouf, paru le 18 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.uzevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.